Vous écoutez RTL. RTL, Tour de France 2018.
Le Club Jalabert avec Christophe Paco et Laurent Jalabert sur RTL.
Bonsoir à tous, bienvenue à Carcassonne, au pied de cette magnifique cité, juste derrière nous, avec une étape qui correspond à peu près à celle d'hier. Le même scénario, beaucoup d'échappées et une arrivée ici au sprint pour trois coureurs, avec la victoire au final du Danois Magnus Kort Nielsen devant Jon Izagirre et Bauke Mollema. Victoire pour ces échappées devant un peloton qui est arrivé en roue libre ici ce soir après 13 minutes, avec évidemment Geraint Thomas et Christopher Froome toujours premier et deuxième au classement général de ce Tour de France 2018, avant une journée de repos ô combien attendue et méritée. Bonsoir Laurent Jalabert.
Bonsoir Christophe.
Rien ne change en général, pourtant c'était une étape très mouvementée, très accidentée. Il aurait pu y avoir quelques petites cassures, quelques petites attaques en descente avec le vent et autres. Il n'en a rien été pour les favoris, mais on a vu une belle course quand même aujourd'hui.
Il y a une course intéressante pour le gain de l'étape. Pour ce qui est du classement général, effectivement, tout le monde campe sur ses positions. On attend les Pyrénées, on attendait le jour de repos d'abord avec impatience. On sent bien que le peloton a besoin de souffler, de se refaire un peu une santé avant d'aborder la dernière semaine qui sera décisive pour le classement général. Voilà, oui. Les positions sont quand même resserrées entre certains et on attend maintenant des Pyrénées agitées, mouvementées et des attaques finalement.
Qu'en pensez-vous ? Venez en parler, venez vous exprimer, surtout venez poser toutes vos questions comme tous les soirs à Laurent Jalabert, notre consultant qui est passé sur cette terre aujourd'hui de Mazamet, là où il est né il y a près de... On ne dit pas, si, près de 50 ans quand même.
Oui. Bientôt 50.
Bientôt. C'est pas beau de faire ça, monsieur Paco. Non, je m'en veux.
On est passé juste devant la maternité, le sprint modification, enfin le sprint maillot vert, c'était
vous
devant
avez
la maternité.
Tout en bleu, oui, c'est ça, quand vous étiez petit bébé.
J'étais là.
Avec le petit,
avec
Laurent
un,
dessus.
Un petit chapeau.
Ah, vous étiez magnifique.
Hein, tout.
Je vais vous faire un petit pyjama à l'époque. Parce que je suis beaucoup plus vieux que vous. 32 10 3 2 1 0. Toutes vos questions, notre consultante qui est heureux d'être dans sa région aujourd'hui. 3 2 1 0. C'est parti, mais comme tous les soirs. Le rappel de ce qui s'est passé tout au long de la journée sur la première Radio de France avec nos envoyés spéciaux, c'est le zap du tour, le zap du jour. 14h, première échappée, point sur la course avec Christian Olivier.
Un départ pied au plancher pour trois coureurs, le français Warren Barguil, le britannique Adam Yates et l'autrichien Mulbler Berger, qui possède une poignée de secondes d'avance pour l'instant sur le reste du peloton qui ne semble pas trop réagir.
Nouveau point sur la course à 15h sur RTL, Nicolas Georgerot, Christian Lidé.
Une échappée dans l'échappée, Lilian Calmejeanne s'est extirpée du groupe des 29 coureurs qui possède, on va dire, une petite minute d'avance.
Pour l'instant, le français a un bon rythme, bonne fréquence de pédalage. Il va entrer donc dans son département, le vainqueur de la station des Rousses.
Le peloton maillot jaune est favori, pointé à 6 minutes et 10 secondes.
Étape très mouvementée, plusieurs tentatives d'échappée, bien entendu, ça ira jusqu'au bout. Comme hier, course à deux étages, course à deux niveaux. 17h, nouveau point sur la course.
Raphaël Maïka, seul en tête, le coureur polonais, avec deux poursuivants pointés à 30 secondes. Il s'agit de Mollema, le néerlandais, et de Nielsen, le coureur danois. À 39 secondes, le groupe des anciens compagnons d'échappée, et puis le peloton maillot jaune pointé à 12 minutes. Le peloton, évidemment, qui ne reviendra pas.
Ça roule très fort vers Carcassonne, évidemment. Les échappés vont arriver. Et attention dans la descente, ça glisse pour Romain Bardet, victime d'une belle embardée. Dangereuse descente et tout devant. On sprint l'arrivée avec Laurent Jalabert.
Izagirre, Mollema, Nielsen. Nielsen toujours en première position. Les trois hommes s'observent comme des pistards maintenant. Izagirre attaque et Nielsen répond. Couvrain de Nielsen. Nielsen toujours en tête. Nielsen est le plus fort. Victoire d'étape. Nielsen, deuxième. L'Espagnol, Izagirre, troisième. Mollema. Et c'est donc la deuxième victoire en deux jours pour la formation Astana. Et ce soir, il n'y aura pas de changement au classement général. L'autoroute toujours pour les favoris.
Arrivée signée, Christian Olivier.
RTL, Tour de France 2018.
Le Club Jalabert, Christophe Paco et Laurent Jalabert.
Belle performance, celui qui avait gagné. Deux victoires d'étape sur la Vuelta, le Danois Magnus Kort Nielsen, qui a su se jouer dans les rues de Carcassonne, au pied de la cité d'Izagirre et de Mollema. Bien vu, hein, quand même.
Oui, ça n'a pas été bien compliqué. Ils n'ont pas opposé grande résistance. Ils l'ont accompagné jusqu'au bout, en prenant tous les relais. Il y a eu une timide attaque de Izagirre sous un peu avant la flamme rouge. Et puis voilà, on l'a mené jusqu'au sprint finalement, alors qu'il était le plus rapide du groupe. Bon, c'était une formalité pour lui ensuite de gagner.
On va écouter sa réaction, si vous voulez bien.
Yeah, it's amazing. It's
c'est énorme. J'en rêvais avant même de commencer à faire du vélo. C'est ma première victoire ici sur le Tour. Je suis très heureux de gagner une étape et j'aimerais remercier énormément mon équipe qui m'a donné cette chance et qui a cru en moi. Et aussi un grand merci à Mike dans le final.
Ben merci, voilà, c'est il a remercié tous ses coéquipiers, évidemment, Magnus Cort Nielsen, très beau vainqueur hier. Déception pour le premier français, 7e, Lilian Calmejane qui a tout tenté, peut-être de façon désordonnée aujourd'hui, qui sait, on en parlera avec Laurent Jalabert et avec vous, peut-être sur le 32-10, sa réaction à l'arrivée auprès d'Olivier Loret.
Je comprends pas la stratégie de certaines équipes, il y a un coureur qu'à la 5e étape, on a eu un différent. Et voilà, Mollema fait combien, 3e? Voilà, 3e, c'est super, c'est une équipe qui joue pour faire troisième, pour ne pas gagner la course. Ils ont joué avec Méner, j'étais tout seul, pourtant j'ai collaboré avec eux pour rentrer sur Machka. Je savais que j'allais être esselé dans le final, je savais très bien que les hommes les plus rapides c'était les deux coureurs d'Astana, mais voilà, moi je savais très bien que Bahreïn allait dynamiter la course, ils avaient deux coureurs qui n'étaient pas rapides et Trek, ils avaient Skuns qui était très rapide aussi. Ils ont préféré faire troisième avec Mollema, et il a préféré m'enterrer. Mais... et condamner ma course, mais voilà, c'est comme ça, à chaud, c'est la détresse qui parle, voilà, j'étais sur mes terres, j'avais les jambes pour gagner, je suis passé à côté d'une belle occasion qui peut-être se reproduira jamais dans ma carrière, et voilà.
Oui, et il en a gros sur la patate, hein, lui qui avait remporté une étape au Rousse, a-t-il bien couru finalement aujourd'hui quand même, Laurent Jalabert, Lilian Calmejane, soyez honnête. Allez.
On ne peut pas dire qu'il ait bien couru, il n'a pas gagné, s'il avait gagné, on pourrait dire que la course était parfaite. Il est déçu et je le comprends parce que évidemment il y avait un côté sentimental pour lui. Cette étape lui correspondait sur le plan physique, sur les qualités physiques qui sont les siennes. C'était du cousu main. Il traversait son département le Tarn et il était à l'avant. Après il s'enflammait loin de l'arrivée. Je ne sais pas si ça y restait dans les jambes pour la fin, mais à ce moment-là faire ce qu'il a fait, partir seul, c'était pas judicieux. Forcément il y a laissé quelques forces. Est-ce qu'elles lui ont manqué à la fin? Ça c'est la grande question. Mais quand tu te retrouves seul avec 8 coureurs, dont trois équipes qui sont représentées avec deux coureurs et que t'es pas le plus rapide, tu sais que t'es dans une position inconfortable. Donc au final, je crois qu'après la ligne, c'est un peu la déception qui l'emporte sur la raison et les mots qu'il a eus, peut-être qu'il les regrettera dans quelques temps.
Je pense pas
qu'on puisse accuser une équipe de courir pour faire perdre quelqu'un sur le tour.
C'était vraiment à l'arrivée, hein, c'était sur la ligne d'arrivée avec Olivier Loret.
Bien sûr. Après, Calmejane, quand il dit j'aurai jamais une occasion comme ça, pour son premier tour, il gagne une étape. Il y a des coureurs qui ont fini leur carrière et qui n'ont jamais gagné l'étape. Donc il a peut-être connu l'extase trop tôt. Du coup, il croit que tout est facile, mais non, c'est aller sur le tour. Et hélas, quand ça semble si simple... parfois, c'est très compliqué.
Analyse de Laurent Jalabert, comme tous les soirs. Vous avez cette chance tous les soirs sur RTL. Vous pouvez même lui poser toutes vos questions en direct. Dans 3 minutes, premier appel, 32-10. Mais vous avez parlé de sentiment, le côté sentimental d'une course. Quand on court sur ces terres, c'est comme quand on commente, quand on analyse sur ces terres.
Oui, j'en ai fait des caisses, c'est sûr, mais ça m'a plu.
Voilà, parce que nous, on est passé tout à l'heure avec la voiture RTL à Mazamé. J'ai vu un immense écran géant marqué Allez Jaja. J'ai vu quelques pancartes et tout. Et avec Olivier Loret, on faisait la route tous les deux dans la voiture course. Et on s'est dit, on va quand même s'arrêter à Mazamé dans un petit bar, voir ce qu'il pense de Laurent Jalabert.
Je ne sais pas s'il se rappellera, mais j'ai participé à la Laurent Jalabert ici, en tant que motard. Un petit bonjour, bien sûr, à Laurent, de la part de René.
Bien, moi je le connais depuis très longtemps. Il est mignon, oui, j'en ferai bien mon week-end, même à mon âge.
Bonjour Laurent, et à bientôt pour la Jalabert.
Coucou Laurent. Bonjour de Mazamé.
Je le passe un grand bonjour.
Très grand.
J'espère que un jour je le verrai.
Il est sur la portière là.
Oui, mais je le verrai comme vous en face, moi.
Il y en a qui ne vous connaissent pas encore à Mazamé, c'est fou, hein, Laurent Jalabert. On salue nos amis du café du boulevard, voilà, qui étaient tout contents de nous arrêter avec la voiture Jalabert aujourd'hui.
Bon, je ne suis pas un grand adepte des bistrots, hein, mais.
Non, pour le café, après la course,
Mais moi, je m'entraînais, je n'allais pas trop au bistrot quand j'étais jeune.
Le Pic de Nord, et puis voilà, c'est tout. Hein. Il était beau ce Pic de Nord. Beaucoup de monde encore aujourd'hui. Bravo à Laurent Jalabert pour votre succès.
En tout cas, le Tarn et Mazamé a fêté le tour et on était très heureux de le recevoir. Et voilà, on lui a rendu hommage comme il se doit.
Les classements du jour, le maillot jaune, encore et toujours sur les épaules de Geraint Thomas.
Ah oui, pas de changement au classement général. Froome 2e, Dumoulin 3e.
Roglic 4e et Bardet
5e.
Voilà, quand même, attention à Bardet. 3 minutes 21 de retard sur Geraint Thomas. Le maillot à poids va bien.
Alaphilippe qui s'est glissé pendant un petit moment à l'avant de la course, histoire de passer en tête du premier Grand Prix de la Montagne. Ensuite, il a loupé l'échappée, mais il continue à être en tête avec 22 points d'avance sur Barguil.
C'est français, monsieur. Deux Français qui disputent ce maillot à poids.
Exactement.
Comme le maillot blanc.
Le maillot blanc, Pierre-Roger Latour, devant Guillaume Martin. Toujours deux Français en tête de ce classement du meilleur jeune.
Il ne supporte pas qu'on l'appelle Pierre-Roger, vous le savez. Hein. Faut être exprès.
Non.
C'est Pierre Latour. Voilà.
Pierre et Roger. Moi, c'est Laurent Pierre.
Mais c'est pour ça, parce qu'on lui a mis son deuxième prénom et il n'aime pas du tout. Je vous le dis pour l'anecdote. Le maillot vert. vert.
Maillot vert, Peter Sagan.
Extraordinaire.
Plus que jamais. Ah ouais. Qui a encore pris des points aujourd'hui à Mazamé au passage du sprint. Il était en l'échappée.
Il était en l'échappée chez vous, à Mazamé, Laurent Jalabert. Le plus combatif du jour.
C'est Rafał Majka qui a attaqué sur les pentes du Pic de Nord, qui n'a pas réussi, hélas, à rallier l'arrivée à Carcassonne. Le terrain était trop long et le vent était trop fort. Vent de travers dans le final qui a ruiné ses espoirs de victoire.
Et ce soir, après une grande série d'enquêtes, on peut le dire, après avoir mené vraiment cette enquête d'une façon incroyable, nous avons celui qui détient pour l'instant eh bien le maillot. C'est quoi? C'est le dossard distinctif hein, de l'équipe la plus combative, la meilleure équipe sur le tour, le classement par équipe.
Oui, le classement par équipe, pour ce qui est de l'étape remportée par l'équipe Trek, qui avait plusieurs coureurs à l'avant aujourd'hui, et puis la Movistar, l'équipe de Valverde, Quintana, Mikel Landa est toujours leader du classement par équipe sur le Tour de France devant la Bahreïn et le Team Sky.
À la veille de la journée de repos ici avant d'attaquer les Pyrénées, tous vos appels au 3210 comme tous les soirs, Laurent Jalabert est prêt à répondre à toutes vos questions. À tout de suite.
Appelez le 3210 et commentez l'étape du jour avec Laurent Jalabert.
Le club Jalabert sur RTL. Christophe Paco.
Victoire d'étape à Carcassonne aujourd'hui pour Magnus Kortensen devant ses deux compagnons de dernière échappée, Izaguirre et Mollema. Premier français, Lilian Calmejean, très déçu, l'entendu. Septième, puis un petit clin d'œil à Julien Bernard qui termine dixième. C'est le fils de Jean-François Bernard. C'est illustré, on s'en souvient, sur les pentes du Mont Ventoux, hein, Laurent Jalabert.
Oui.
C'est bien de voir ses enfants.
Oui, c'est bien de les voir, oui. Sur le vélo, sur le Tour c'est de bon. France, c'est même un privilège.
C'est un privilège. Il y en a quand même des papas et des fils qui se retrouvent de temps en temps en vélo, c'est difficile. Je sais qu'en rugby, il y a des joueurs, des papas qui ont joué avec leur fils, mais je sais pas si. C'est une bonne question.
Il arrive un moment où tu évites d'aller faire du vélo avec ton fils parce que quand il s'attaque au sommet des côtes, tu te dis oh,
c'est un peu le problème.
On va peut-être arrêter.
Nicolas est avec nous pour débuter évidemment cette série de questions à Laurent Jalabert, comme tous les soirs sur la première de France. Nicolas, vous avez composé le 32-10. Bonsoir à vous, Nicolas.
Oui, bonsoir Laurent et bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Moi, j'avais une question sur Lilian Calmejean qui était donc chez lui, il était ultra motivé, ok. Mais est-ce qu'il a pas un peu couru n'importe comment en voulant partir tout seul à 90 km de l'arrivée? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire mieux?
Ce qui est sûr, ce qu'il a fait à ce moment-là, ça lui a servi à rien, ça c'est évident, à part montrer qu'il était très motivé, à part rappeler à tout le monde qu'il était du cru, et à part peut-être qu'il lâchait quelques forces. Donc c'était pas très judicieux ce qu'il a fait à ce moment-là. Et après dans le final, bon, le final de toute façon on savait que ce serait aléatoire. Hein. Il aurait très bien pu se retrouver avec les trois devant pour la gagne. C'est presque une loterie là. Il y a des attaques, il y a des contre-attaques, il y a personne qui a couru contre lui. C'est que quand tu loupes le coche, quand ils ont 100 mètres d'avance, c'est fini. Quand tu te retrouves avec les coéquipiers des trois qui sont devant, tu peux pas espérer avoir leur soutien, c'est pas possible. Donc si à ce moment-là il avait eu la capacité physique de faire l'effort pour revenir, ce qu'il n'avait plus, hein. Pour boucher ses 100 mètres, il ne pouvait pas le faire tout seul. Les autres n'allaient pas l'aider pour ça. S'il avait pu le faire, il se serait fait contrer de toute façon. Il était isolé dans le final, seul de son équipe, face à trois formations qui étaient deux.
Et c'était terrible. Comme il s'est fait décrocher, c'était terrible. L'image était frappante.
Donc il était forcément déçu, désolé, désespéré de voir la victoire s'échapper, filer devant lui par des coureurs supposés moins forts, comme peuvent l'être par exemple Mollema sur ce type de finale.
Ce qu'il disait dans son interview, de toute façon, il dit à quoi ça a servi pour Mollema. De toute façon, il n'allait pas gagner. Hein, donc il termine 3e.
Oui, mais bon, il a attaqué quand même.
Il a quand même attaqué. Mais grosse déception pour quelqu'un, et encore une fois, qui roulait sur ses terres. Lui qui avait remporté une étape l'an dernier au sommet de la station du Jura des Rousses et qui voulait rééditer. Mais le tour change chaque année et tout le monde a envie de gagner son étape. Merci à vous, Nicolas. 32-10, 3-2-0. Bonsoir, Arnoux.
Oui, bonsoir Christophe et bonsoir Laurent. Laurent, deux petites questions. Est-ce que l'embardée de Romain Bardet à la descente du dernier col peut être le signe d'une fatigue? Et ma deuxième question rapide aussi, pourquoi Rafał Majka, qui était quelqu'un de prometteur, n'arrive pas à convaincre sur le Tour de France?
Alors Bardet peut être fatigué, c'est possible. Hein. Je crois qu'ils le sont tous, plus ou moins. Romain, on l'a vu hier sur l'arrivée de Mende, là, qu'il perd 22 secondes sur Roglic et une quinzaine sur Froome et Geraint Thomas. Donc je pense qu'il est un peu fatigué. Est-ce que c'est pour ça qu'il a mal tracé ce virage? Lui, c'est un très gros descendeur. Avec l'intention de faire la descente à fond à ce moment-là, peut-être
tenter
a-t-il été
coup,
gêné. Ouais. Oui, bon, enfin, ça peut être plein de raisons en fait. La fatigue peut-être. J'ai pas vraiment la réponse.
Mais ça se voit, un bout de deux semaines pour aller voir les coureurs à chaque fois à l'arrivée, sur la ligne d'arrivée. Les visages sont différents. On a croisé Julien Alaphilippe, on lui a dit, il a reconnu quoi. La journée de repos leur fera du bien. Hein.
Évidemment.
Il faudra dormir très longtemps demain matin.
Oui, tant que faire se peut. Après, il est possible qu'il soit réveillé de bonne heure pour d'autres raisons. Le contrôle,
c'est sûr.
Voilà. Oui. Un jour de repos, ça peut arriver. Et puis quant à Majka, sur le tour, il reste brillant dans son registre. Voilà, chasseur d'étape. Il peut rééditer hein, dans les Pyrénées. Il a montré aujourd'hui qu'il avait la pêche. Mais c'est vrai que pour le classement général, voilà, il n'est pas non plus... il n'a pas confirmé, en fait. Jamais, d'ailleurs. Hein. Il n'a jamais vraiment confirmé sur le Tour être capable d'être sur un podium.
Ça manque d'ambition, vous pensez?
Non. C'est qu'en fait, il est plus performant quand il a perdu un peu de terrain, quand il a une marge de manœuvre, comme d'autres, hein, comme Barguil, comme... comme Mollema, par exemple, où ils peuvent aller chercher des étapes comme ça, sans une échappée.
Merci à vous, Arnaud, pour ces deux questions très pertinentes. En tout cas, Nicolas Arnaud était les premiers à nous rejoindre sur le 32-10 ce soir.
Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32-10.
Le Club Jalabert sur RTL.
Bonsoir Pierre, bonsoir à vous.
Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Bonsoir. Moi, j'avais une petite question, c'est sur les Movistar, en fait. Je voulais savoir s'ils n'avaient pas fait une petite croix sur le classement général en envoyant trois coureurs comme ça dans l'échappée d'aujourd'hui.
Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit la raison principale. Je pense pour avoir couru quelques années en Espagne, je sais que le classement par équipe et la notion d'équipe, de collectif, a une grande valeur. Pas qu'en Espagne, hein. C'est également le cas ailleurs, en France aussi. Et je pense qu'ils veulent remporter ce classement. Et c'est pour cette raison que sur des étapes de transition, vous savez, les étapes de transition, les échappées, elles prennent du terrain. Hein. On l'a vu hier, on l'a vu aujourd'hui. Mmh. Elles arrivent avec 20 minutes d'avance sur le peloton. Si tu mets un coureur, ça fait 20 minutes. On explique le règlement. Hein. C'est le temps est pris pour déterminer le classement par équipe sur les trois premiers coureurs de chaque équipe à l'issue de chaque étape. Et le classement général, c'est le cumul des temps de chaque étape. Donc voilà, aujourd'hui, la Movistar avait trois hommes devant. La Bahreïn, qui était deuxième, avait réussi à mettre trois hommes. Donc si Movistar n'en met que deux, elle perd les 15 minutes qu'a perdu le peloton. Donc elle perd le leadership. Donc voilà, c'était ça d'abord. Ensuite, elle préserve sur une étape de transition où de toute façon, il ne se passe rien au niveau du classement général. Elle préserve toutes ses chances avec Landa, avec Quintana. Bon, Valverde, il est un peu plus loin. Non, je pense pas qu'elle ait renoncé, mais on est tous... clairvoyant et on voit la même chose. Je pense que les Movistar, ils sont pas en mesure de renverser la hiérarchie, tout simplement. Ils sont un peu pas dépassés, mais ils subissent.
Quand on vous écoute, Laurent, il est bon de rappeler après cette question de Pierre qu'il y a beaucoup de classements dans un Tour de France, oui. Qu'on se bat différemment. On cherche le maillot à poids pour deux Français, le maillot blanc de meilleur jeune par équipe, évidemment, ou le maillot vert qui va être attribué, sauf accident, peut-être sur le cycliste qui nous régale le plus encore aujourd'hui ce matin, Peter Sagan, qui était là pour encore un grand numéro.
C'est ça. Il y a plusieurs... évidemment, c'est le maillot jaune qui focalise toutes les attentions, mais faut bien avouer que dans la lutte pour le maillot jaune, on s'ennuie un peu, donc voilà, on essaie de...
On attend les Pyrénées aussi. On attend les Pyrénées.
Oui, on a attendu les Alpes, on va attendre les Pyrénées.
Mais au moins dans les Alpes, on sait qui a une chance de gagner ou pas le Tour, quoi, quelque part, pour faire l'envers. Mais ce que je veux dire, on sait que aujourd'hui, le grand rival de la Sky, c'est Dumoulin, plus que Bardet, et encore un petit Roglic, peut-être qui peut s'immiscer dans ce combat. On est bien d'accord, Laurent?
On verra. On verra si la hiérarchie est bouleversée. Mais pour l'instant, en tête, c'est Sky, et derrière, c'est le reste.
John est avec nous sur le 32-10, 3-2-1-0. Bonsoir, John.
Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Laurent. Alors moi j'ai une petite question simple, mais est-ce qu'à votre avis Romain Bardet aurait dû tenter quelque chose sur l'ascension d'aujourd'hui ?
Non, honnêtement non, c'était trop loin de l'arrivée. Vous l'avez vu, Dan Martin a tenté, il a fait une très belle montée. Et dans la descente derrière, il faut pédaler quand t'es tout seul ou mal accompagné ou avec très peu de coureurs. T'as pas de chance d'aller au bout avec ce final vent de côté. Ça aurait été une débauche d'efforts, même si c'est à la veille de la journée de repos et où demain il peut récupérer. Non, je crois qu'il a plutôt intérêt à garder des forces.
Oui.
Et s'il a vraiment la force d'attaquer, le faire dans les Pyrénées.
Ça serait superbe.
Oui.
Toute la France attend, on le voit au bord de la route, hein, Laurent Jalabert. Il y a beaucoup de banderoles pour beaucoup de coureurs. Pour vous aujourd'hui, par exemple, parce que vous étiez sur vos régions, mais sur vos terres, mais même sur l'ensemble du circuit, on voit des petits panneaux, hein, Jaja revient et tout. Mais là, on voit beaucoup de Bardet quand même. Il n'y a pas encore la Bardet Mania comme les autres années. Mais là, on a envie que Romain fasse un petit numéro. On est bien d'accord.
Il a le soutien du public, évidemment. Et on attend parce que tous les espoirs pour le classement général reposent sur lui. Hein, ça repose sur personne d'autre. C'est le seul aujourd'hui en mesure d'être sur le podium de ce tour, et on le savait avant le départ. Donc il est à la hauteur de sa réputation, hein. Il ne déçoit pas.
Il ne déçoit pas. On rappelle après il a une équipe un petit peu diminuée pour terminer ce tour. Malheureusement, ils ne sont plus que 5. 18h54. Il nous reste 5 minutes, on a le temps de prendre largement deux appels. C'est formidable. Géraldine est avec nous. 32-10, 3-2-1-0, alors qu'on range le matériel du Club Jalabert. Déjà, attendez un petit peu, c'est à 19h que ça ferme. Laurent, on accueille Géraldine comme il se doit. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Bah écoutez, moi je suis novice dans le monde du cyclisme. Du coup, je me demande pourquoi on ne voit pas des coureurs de l'équipe Sky aller dans les échappées du Tour.
Parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, c'est accompagner leur leader en toutes circonstances et tous les jours. À chaque jour qui passe, c'est un jour de moins pour eux, et à chaque jour qui passe, on essaie d'éliminer un adversaire ou plusieurs. Donc on joue groupé, on les remarque. Qu'ils aient le maillot de leader ou qu'ils ne l'aient pas, depuis le départ de ce tour, ils sont toujours ensemble. Parce que quand on est ensemble, on a les moyens de réagir, on a les moyens d'agir, on a les moyens de s'organiser. Et voilà, c'est une équipe qui est très disciplinée, qui a cette force individuelle qui lui permet, lorsqu'elle se met ensemble au service du collectif, d'être très efficace et d'être même juste intraitable. Voilà, pour quelles raisons ils vont jamais les échapper, parce que gagner une étape, ça leur apportera quoi de plus?
Parce que même financièrement, on partage tous les prix à la fin, c'est ça Laurent aussi, hein?
Oui, mais vous savez, financièrement, vaut mieux se sacrifier pour gagner le tour que d'essayer de
c'est
gagner
ça.
L'étape.
Non, mais je veux dire, justement,
ça rapporte plus.
Froome à la fin peut partager avec tous ses coéquipiers, ceux qui ont participé au tour, même le docteur, l'équinier, enfin, normalement, c'est comme ça que ça se passe.
À l'époque où je courais, Christophe, c'est comme ça que ça se passait. Généralement, le leader laissait même ses prix à tous ses coéquipiers.
Ouais.
C'était la
règle. Ce que vous faites avec nous à la fin du tour.
Exactement. Et comme on ne gagne rien, ben on va boire l'apéro. On se dit au revoir.
Voilà, mais voilà, c'est bien de comprendre un peu la philosophie évidemment de chaque équipe. Et la Sky évidemment joue le maillot jaune.
Tout pour le jaune.
Le classement général.
Tout pour le jaune, elle se désintéresse du reste.
Bon, il gagne quand même des étapes aussi. Hein.
Vous aussi, c'est tout pour le jaune,
c'est
Christophe.
Tout pour l'honneur et le plaisir de travailler avec vous, Laurent Jalabert. Enfin, presque. 18h57, on conclut avec Jacques ce soir qui est sur le 32-10. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir. Je voulais savoir comment se passe une journée type de journée de repos au niveau de l'ensemble des joueurs. Quelle est leur activité du matin jusqu'au soir? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font de la farniente? Est-ce qu'ils font du vélo?
Oui.
C'est intéressant à savoir ce qu'ils font.
Alors, généralement, il n'y a pas de contrainte horaire. Le matin, on profite de dormir. Donc, on se détend. On reste le plus longtemps possible au lit. Généralement, les coureurs, sur une étape normale, se réveillent 3 heures avant avant l'heure de départ pour prendre le déjeuner. Le temps de faire la digestion avant que la course s'élance. Bon, là, le jour de repos, ils vont rester peut-être un peu plus longtemps au lit. En tout cas, il y a moins de stress. Ensuite, il y aura une sortie vélo. C'est un peu la carte, hein. Un peu la carte, suivant les uns et les autres, hein, suivant les besoins. Voilà, on roule plus ou moins. Si on est fatigué ou blessé, on prend le soin vraiment de peut-être même carrément rester au repos. Et puis, repas, collation à midi, une sieste à l'après-midi, ce qui n'est pas quand même habituel. Ou voir la famille, généralement, la famille en profite pour venir, ouais. Et ça fait du bien. Mais quelquefois, c'est lourd aussi parce qu'on n'a pas de temps à la recorder. Et on repart un peu frustré de cette journée de repos. Et puis, en fin d'après-midi, le massage, une conférence de presse pour les stars. Et puis ça y est, on est déjà dans l'étape du lendemain avec le dîner.
Et le lendemain, ce sera les Pyrénées, hein, Laurent Jalabert. Et quel menu, hein, avec 3-4 énormes étapes tout de même, même si au milieu, il y aura une étape vers Pau pour les sprinteurs. Mais on va redémarrer très fort vers Bagnères-de-Luchon, partant de Carcassonne mardi matin. Mercredi, le sprint de 65 km. Le président Macron sera là toute la journée. Information RTL, Bagnères-de-Luchon, Saint-Lary-Soulan. Vendredi, Lourdes, hein, accueillera le départ pour 200 km et quelques petites montées encore. Avant le contre-la-montre de samedi entre Saint-Pé, sur Nivelles et Espelette. Victoire d'étape aujourd'hui. Aujourd'hui donc pour Magnus Cort Nielsen devant Izagir et Mollema, pas de changement au général. Et à noter qu'Arnaud Démare, qui a eu des petits soucis en début d'étape, est arrivé dans les temps à 23 minutes 36 du vainqueur de l'étape. Me signale Christian Olivier qui a commenté l'après-midi comme tous les jours avec Nicolas Georgerot, Olivier Leray. La course sur la première à 2 de France. Bonne fin de soirée Laurent Jalabert.
Merci
à vous. On se retrouve tout à l'heure, hein, pour parler du Tour de France dans le direct de l'équipe à 19h30 avec tous vos envoyés spéciaux sur la route du Tour.
Le club Jalabert sur RTL.